Décryptage. Anne Corpet.
Il s'appelle Benjamin Brière, c'est un Français de 36 ans, originaire de Lyon, amoureux des voyages. Il parcourait le monde à bord d'un van qu'il avait aménagé lui-même et en mai 2020, il a été arrêté en Iran. Il avait pris des photos dans un parc national à la frontière du Turkménistan avec un petit drone de loisir, un de ces petits appareils volants qu'on trouve couramment. Zone interdite, ont déclaré les autorités. Benjamin Brière a été condamné cette semaine à 8 ans de prison pour espionnage et 8 mois supplémentaires pour propagande contre la République islamique. Benjamin Brière a toujours clamé être un simple touriste. Il fait partie de la douzaine de ressortissants étrangers actuellement détenus par l'Iran. Les autorités de Téhéran ne s'en cachent pas, ces prisonniers peuvent être utilisés comme monnaie d'échange. L'usage d'otages comme instrument diplomatique est une des marques de fabrique de la République islamique. Dès qu'elle a besoin d'un levier de négociation ou quand elle veut obtenir la libération d'un Iranien détenu à l'étranger, eh bien, elle a recours à ce procédé, et ceci depuis des décennies. Le sort de la douzaine de ressortissants étrangers actuellement détenus dans les geôles iraniennes est donc suspendu à des enjeux qui les dépassent complètement. Iran, la sordide diplomatie des otages, c'est le thème de Décryptage. Avec nous en studio pour évoquer cette particularité assez abjecte de la diplomatie iranienne, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Bonjour et merci de vous être déplacé pour être avec nous.
Oui, bonsoir.
Je voudrais tout d'abord qu'on écoute le cri de colère de Blandine Brière. Hein, c'est la sœur de Benjamin, incarcérée depuis un an et demi dans le nord-est de l'Iran. Il est en grève de la faim depuis fin décembre. Et Blandine Brière a été interrogée par Nicolas Falaise juste après l'annonce de ce terrible verdict de 8 ans et 8 mois de prison.
On est complètement dépité là. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très dur qui nous tombe dessus. Mais en même temps, je suis tellement en colère de me rendre compte que voilà, on est bien évidemment dans un procès politique. Et là, maintenant, c'est clair et c'est maintenant clairement montré. Enfin, le poids est côté gouvernement français. Maintenant, il faut agir. Et tout ça, c'est politique. Et on est, nous, petites personnes, mêlées à des problèmes aussi énormes. Et c'est ça qui nous dépasse. Moi, je suis complètement à terre et en même temps en colère. On a besoin que la France fasse quelque chose pour donner une issue à tout ça, parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec des sentences pareilles et une injustice pareille.
Alors, on entend le désespoir, la colère de Blandine Brière. Le procès de Benjamin Brière, était-il un procès politique, comme elle le dit ?
Je ne connais pas le dessous de l'affaire, mais c'est vrai, après la description qu'on en fait, l'air d'un simple touriste. Bon, ce qu'il faut bien dire, c'est, vous l'avez rappelé, ce n'est pas nouveau, c'est qu'on a quand même un système judiciaire en Iran qui est surtout aux mains, on va dire, des ultra-conservateurs. Donc, ce n'est pas nouveau et qui ont une vision, on va dire, très idéologique, on va dire très politique, ça confirme, et complètement anti-occidentale. Donc, le narratif comme quoi cette justice fait des procès politiques pour des gens sur qui ça tombe comme ça parce que l'Iran a besoin d'une monnaie d'échange, c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. Donc on va dire cette histoire cadre assez bien avec ce système.
Surtout que, selon son avocat, hein, une heure avant le début du procès, la chambre du tribunal et le juge chargé du dossier ont changé. Il a été condamné pour espionnage par le biais de collaboration avec un État ennemi de la République islamique, alors qu'il était censé être jugé pour espionnage par le biais de la prise de photographie. Ça veut dire que la justice en Iran, ça peut basculer comme ça rapidement ?
Je vous le répète, si vous voulez, il suffit qu'il y ait. C'est vraiment une vision, certains juges, très, très ultra, complètement idéologique. Et si effectivement il y a un ordre donné d'en haut, le système judiciaire en Iran est soi-disant indépendant du gouvernement, mais ils sont tous aux mains des ultras de toute façon maintenant. Donc ça confirme ce que je disais juste avant, c'est qu'effectivement ça peut être complètement instrumentalisé à des fins politiques, diplomatiques, de rapport de force, quoi. L'idée, c'est derrière, je pense qu'ils veulent un rapport de force, notamment avec l'Occident, notamment avec la France.
Et alors, justement, la condamnation du Français intervient alors que l'Iran est en train de négocier à Vienne son retour dans l'accord sur le nucléaire. Le résultat, ou au moins l'avancée de ces négociations, ça peut jouer un rôle dans la libération de Benjamin Brière ?
Alors, il faut signaler aussi, c'est contrairement à l'image qu'on peut en avoir, quand on connaît l'Iran intérieur, C'est l'image d'un gouvernement froid, hyper coordonné, tout est millimétré. La réalité n'est pas vraiment ça. Donc là, on peut avoir un système judiciaire, j'en sais rien, mais un système judiciaire qui avance de son pas, qui cherche le rapport de force et qui n'est pas forcément hyper coordonné avec le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est là, vous parlez des négociations sur le nucléaire. On a du mal à voir à quoi ça avancerait là, l'Iran, parce que le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est vraiment des tensions d'abord entre l'Iran et les États-Unis. Donc peut-être l'explication, elle est peut-être ailleurs.
Alors, il y a aussi des otages binationaux, irano-américains, qui sont détenus en Iran. Robert Mallet, l'émissaire spécial des États-Unis pour l'Iran, a lui reconnu que des négociations étaient menées pour assurer leur libération en parallèle aux négociations sur le nucléaire. Il est très difficile pour nous d'imaginer revenir dans les accords sur le nucléaire alors que 4 Américains innocents sont retenus en otage par l'Iran, a-t-il déclaré. Ça veut dire que cette question risque quand même de parasiter ces négociations déjà difficiles.
Parasiter, je ne sais pas, mais c'est clair que le sujet est arrivé sur la table et ça a un écho dans la presse iranienne. Ça a donné lieu à des déclarations assez importantes du genre le ministre des Affaires étrangères iranien a dit « on est éventuellement prêt à discuter directement avec les États-Unis », ce qui pour le gouvernement ultra en Iran, c'est quasiment du jamais vu. Ce qu'on entend dire en Iran, c'est que, OK, il y a ce problème, il faut en discuter avec les États-Unis, mais ça ne doit pas influer sur nos négociations sur le nucléaire iranien.
Alors, évidemment, cet emploi des otages dans le jeu de la négociation est tout à fait contraire aux droits et aux pratiques diplomatiques. Mais vous l'avez dit, hein, c'est pas nouveau chez les Iraniens, c'est même presque une habitude. Le sort de 4 prisonniers irano-américains s'est par exemple dénoué en janvier 2016, hein, au moment de la levée des sanctions internationales contre l'Iran à la suite de l'accord sur le nucléaire. Et parmi ces détenus, il y avait Jason Rezaian. Il était chef du bureau du Washington Post à Téhéran quand il avait été arrêté. Il est resté 544 jours en prison. Il a depuis écrit un livre sur sa détention et il en parlait en 2019 sur la radio publique américaine NPR.
Vous savez, je n'aime pas le terme « pion ». Je pense que personne n'aime cela. Mais je suis convaincu d'avoir été utilisé comme levier dans un échange diplomatique très intense entre les États-Unis et l'Iran qui ne s'était pas produit en près de 40 ans. Oui, j'ai été utilisé comme monnaie d'échange dans ces négociations. Je pense que les autorités qui nous ont enlevés tentaient activement de s'interposer dans les négociations sur le nucléaire et un possible accord. Et notre arrestation était l'une des multiples choses qu'ils ont faites pour tenter de perturber ces négociations. Dans les conversations que j'ai eues avec les gens du gouvernement américain, il est apparu clairement que mon arrestation a changé l'équation, changé les sujets qu'ils devaient aborder à chacune de leurs rencontres. Et cela a été un défi supplémentaire dans l'ensemble du processus.
Une réaction, Thierry Coville, ça montre bien que ce n'est pas forcément du haut du sommet de l'État iranien que les initiatives...
J'en suis pas sûr, mais... Bon, c'est déjà arrivé, c'est vrai que je pense que c'est un cas d'un Allemand au début des années 90, quand j'allais en Iran, ça lui était tombé dessus, on l'avait accusé je ne sais plus quoi, et clairement c'était pour entrer en rapport de force avec le gouvernement allemand. Je note aussi que c'est un peu complexe, parce que là, d'après ce que dit Jezayan, il dit, en fait, c'est pour perturber les négociations sur le nucléaire. Donc, on sait très bien que les négociations sur le nucléaire iranien, il faut rappeler aux auditeurs, étaient menées plutôt par les modérés, notamment quelqu'un que déteste. Les radicaux, c'est Mohammad Javad Zarif, qui était considéré comme vendu aux Américains. On peut avoir toutes les combinaisons possibles avec des durs contre la justice. En gros, c'est une manière de gêner, parce que, évidemment, quand vous discutez de ça en Iran, les modérés Zarif, qui connaît très bien les États-Unis, je veux dire, c'est pas son intérêt de faire ça. Voyez. Donc, on peut avoir des jeux de politique interne en Iran pour gêner les modérés qui sont en train de négocier avec les Américains, on va faire ça pour, gêner. Donc, effectivement, il y a le côté, les personnes se retrouvent des pions dans ce jeu, effectivement.
Alors, le plus souvent, quand même, l'objectif de l'Iran, c'est d'obtenir la libération de ses propres ressortissants détenus à l'étranger. Ça peut être le cas pour Benjamin Brière, contre qui il pourrait être échangé, par exemple.
Vous savez, vous rendez compte tous les bémols. Je sais rien qui prend la décision en Iran. Comment ça se fait déjà?
Même en Iran, quelle personnalité iranienne détenue à l'étranger?
Il y a
est crucial pour Téhéran.
Il y a un cas que les Iraniens n'arrêtent pas de le mettre sur la table, c'est le diplomate iranien qui a été arrêté, parce que là, effectivement, il préparait un attentat contre la manifestation des Moudjahidines du peuple en 2018. Donc il a été arrêté, condamné.
Assadi,
en début de statut diplomatique. Dans ce que je lis, effectivement, c'est quelqu'un dont les Iraniens demandent la libération. Alors, est-ce que c'est lui auquel, on va dire, les durs du système judiciaire iranien pensent ? J'en sais rien, mais c'est vrai que l'Iran demande sa libération. Et c'est vrai que dans le passé, je pensais au cas de quand il y avait le compagnon de Fariba Adelra qui avait été libéré.
Roland Marshall.
Il y avait un Iranien qui devait être extradé aux États-Unis qui avait été libéré, donc... Vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une tactique c'est une stratégie qui est déjà arrivée dans le passé.
Et c'est une pratique qui est assumée par les autorités iraniennes, où elles se cachent un petit peu derrière leurs petits doigts. Elles parlent de gestes humanitaires quand elles libèrent les otages ou...
Assumée, non, parce que je vous dis, c'est quand même... Bon, on peut dire c'est blanc bonnet, bonnet blanc, mais je pense quand même que c'est vraiment les durs qui pratiquent. Et si vous voulez, ils ne vont jamais le dire clairement. Mais c'est vrai que dans leur discours... Ils n'ont aucune confiance de l'Occident. Ils pensent que la seule chose qui marche avec l'Occident, mais ils le disent clairement, c'est nous tordre le bras. C'est le rapport de force. Le droit international, ils n'y croient pas. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est un rapport de force, les discussions avec l'Occident. Et donc là, effectivement, il y avait la presse iranienne qui parlait, qui disait « Oui, les Américains nous accusent de ne pas respecter les droits de l'homme, mais ces sanctions, est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme ?» Donc voilà, ils écartent ça d'un revers de la main en disant on est dans une sorte de guerre, si vous voulez. Donc ils voient ça comme ça, mais ils ne vont jamais l'assumer clairement.
Et est-ce qu'il y a des cibles privilégiées ? Vous êtes chercheur, il y a plusieurs chercheurs qui ont été interpellés, emprisonnés en Iran. Est-ce que vous, par exemple, vous réfléchissez à deux fois avant de vous rendre en Iran quand vous y allez ?
Si on commence à réfléchir à tout ça... Voilà, moi, je vais en Iran depuis début des années 90. Bon, on n'y va pas souvent, quoi, je veux dire. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt ceux qui avaient la double nationalité. Parce qu'il faut le dire aussi, l'Iran se réfugie derrière le fait de dire « Nous, on ne reconnaît pas la double nationalité. » Donc, ils disent « Nous, cette personne, elle n'est pas française ou elle n'est pas américaine, elle est iranienne. » Donc, ils s'attaquaient plutôt aux gens qui ont la double nationalité. Je connais des chercheurs, très bons chercheurs, qui travaillent sur l'Iran, qui ont la double nationalité en Europe. Ils ont très bien compris, ils ne vont pas en Iran. Donc, c'est sûr que... Mais bon, même en tant que chercheur, il faut faire attention. Mais enfin, je dirais, il ne faut pas exagérer. Enfin, je pense que c'est des pays compliqués. Il n'y a pas qu'en Iran. Donc, quand on est chercheur, de toute façon, on va dans un pays compliqué et tendu. On sait de toute façon à l'avance qu'il faut faire attention.
Alors, on va faire un bond dans le passé et revenir à la spectaculaire prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran en 1979, lorsque des étudiants galvanisés par la révolution pénètrent dans l'enceinte diplomatique américaine. Une capture cautionnée par l'ayatollah Khomeini, qui déclare à l'époque « c'est une deuxième révolution plus importante que la première ». Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
En fait, je pense que c'est le grand tournant. On parlait d'idéologie justement. Il y a un lien avec ce qu'on va dire auparavant. C'est, si vous voulez, au début, bon, l'Iran fait la révolution. Les Américains ne savent pas trop ce qui va se passer. Donc, ils soutiennent plutôt en disant, voilà, c'est un nouveau gouvernement qui va être plutôt anti-URSS à l'époque, etc. Et en fait, il y a vraiment un sentiment très fortement anti-américain en Iran qui date aussi. Il faut rappeler, hein, il y a le coup d'État mené par la CIA et l'intelligence service qui renverse Mossadegh, premier ministre iranien en 1953. Il y a la dépendance quand même du temps du Shah vis-à-vis des États-Unis qui est très mal vécue en Iran, etc. Donc il y a un nationalisme qui se construit en Iran contre l'autre, et notamment dans le cadre contre les Américains. Et donc là, ça explose, si vous voulez, derrière. Et c'est vrai qu'on va dire, c'est difficile de parler d'intelligence politique pour une prise d'otage, mais Khomeini a l'intelligence politique de comprendre qu'il va gagner, ça va être bon pour lui, pour la légitimation de la révolution et de recourir à ce nationalisme, si vous voulez. Alors effectivement, et c'est discuté en Iran, hein. Moi j'ai entendu Khamenei qui disait, le guide actuel, qui disait « Oui, certains nous reprochent, pourquoi vous avez pris, fait cet otage ? Pourquoi vous avez validé ça ?» Parce que ça met l'Iran sur un chemin, on va dire, complètement anti-américain. Donc à partir de là, l'Iran s'inscrit en dehors des règles, on vient d'en parler, en dehors des règles diplomatiques, prêt à tout pour afficher son anti-américanisme, le côté tiers-mondiste aussi, si vous voulez. Et donc là, on voit qu'effectivement, c'est pour ça qu'il parle de deuxième révolution, c'est vraiment un tournant, à vous dire, peut-être le principal tournant avec le début de la guerre contre l'Irak de la République islamique d'Iran.
Alors rapidement, après la prise d'otage, les Iraniens annoncent la couleur. En novembre 1979, le docteur Hadik, membre du comité de la révolution iranienne, est en visite en France. Et voici ce qu'il déclare au sujet des diplomates retenus à Téhéran.
Le gouvernement américain devrait prendre l'initiative. S'ils nous livrent le chat, ils seront libres bientôt. Sinon, ils resteront captifs.
Le but était donc clair. Les Iraniens voulaient que les Américains expulsent le chat d'Iran, partir aux États-Unis, réfugier là-bas pour raisons de santé. Bon, on a l'impression que c'était plutôt une sorte d'opportunité plutôt qu'un objectif préalable. Ce n'était pas forcément une stratégie élaborée.
Oui, oui, parce qu'on sait aussi que c'est les étudiants d'eux-mêmes qui décident d'envahir l'ambassade des États-Unis. Et Roménie, c'est pour ça, là on parle entre guillemets d'intelligence politique, ils valident après. Mais ça lui permet de se débarrasser du gouvernement démodéré à l'époque, du Premier ministre plutôt modéré à l'époque. Il radicalise la révolution, il fait appel au nationalisme iranien, il donne un côté tiers-mondiste au régime et il embarque effectivement l'Iran sur un anti-américanisme. Et ça donne une certaine popularité, hein, faut le dire, à l'Iran, dans tous les pays tiers-mondistes qui sont complètement anti-américains. C'est un geste très anti-impérialiste.
Et est-ce qu'à l'époque, les Iraniens mesuraient l'ampleur des conséquences que cette action allait avoir? Parce qu'elle a bouleversé les relations de l'Iran avec les États-Unis. Et encore aujourd'hui, ça pèse lourd, hein, dans la mémoire américaine.
Si vous regardez les différentes révolutions, quand on fait une révolution, généralement, ce n'est pas le moment où on réfléchit aux conséquences de ces gestes. Alors, donc, pour répondre à votre question, mais c'est vrai, je pense que c'est un geste fort. Et l'anti-américanisme qu'on a en Iran aujourd'hui, il a son origine ici, effectivement.
Et alors, Téhéran, aujourd'hui, tire profit de cette pâte pratique à court terme, en obtenant la libération de ses ressortissants à coup d'échanges de prisonniers. Mais est-ce que cette pratique ne contribue pas à finalement dégrader son image qui est déjà bien ternie dans le monde, ou plus crûment, est-ce que les Iraniens se fichent-ils complètement de leur réputation à employer ainsi des méthodes, on va dire, mafieuses?
Non, mais je pense que c'est en débat. On parlait au plus haut sommet de l'État. Je pense qu'il y a ceux qui sont dans cette vision complètement anti-occidentale qui disent... c'est pas le droit, c'est pas la diplomatie, c'est le rapport de force. Et puis il y a ceux quand même comme Rouhani et Zarif qui disent ben non, il faut négocier, c'est pas des pratiques, qui regrettent quand on discute avec eux, ils regrettent ce type de geste, mais ils ont pas la main, si vous voulez. Donc alors, ce qui est intéressant, on va dire, ce qui est en train de se passer, c'est que ces durs qui sont anti-occidentaux, ils sont obligés, c'est facile de critiquer les modérés quand ils négocient avec les Américains, c'est eux qui négocient avec les Américains actuellement. Donc je veux dire, quelque part, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, parce que il continue d'assumer ce type de pratique. D'un autre côté, il demande de discuter directement avec les Américains. Donc, il faut espérer qu'effectivement, ils se normalisent, parce que c'est eux qui sont au cœur du pouvoir en Iran. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que l'image de l'Iran souffre. Hein, et c'est vrai qu'il... ça a un coût. C'est très clairement discuté, hein, en Iran. Ça a un coût pour la République islamique d'Iran, mais pour les durs, les idéologues, etc., pour eux, c'est d'abord être fidèle à l'idéal révolutionnaire de se comporter comme ça, malheureusement.
Et ce n'est pas contradictoire avec la volonté de Téhéran de s'afficher comme une grande puissance, d'être prise au sérieux?
Oui, mais vous savez, bon, si vous mettez du côté iranien, du côté des durs, tout ce qui s'est passé, notamment depuis la sortie de Trump en mai 2018, c'est toujours pareil. Quand on se met du côté iranien, on n'a pas toujours l'impression que, on va dire, en gros, c'est nous les méchants et de l'autre côté, c'est les gentils qui respectent parfaitement les droits de l'homme. Donc, il y a le sentiment qu'ils sont en guerre, tous les coups sont permis, si vous voulez. Donc, mais pour répondre à votre question, on peut espérer que si jamais les États-Unis rentrent dans l'accord et l'Iran rentre dans une phase de normalisation, c'est vrai qu'il faudra qu'ils changent leur pratique. Donc, c'est tout un processus global qui implique également que cette crise du nucléaire soit résolue.
Merci Thierry Coville, merci d'être venu jusqu'au studio. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. L'émission s'achève, elle est exceptionnellement dédiée à Benjamin Brière et à ses proches. Merci à Arnold Assewa pour son aide précieuse à la production et à Hélène Avril qui assure la réalisation de cette émission. Priorité santé.